Popopien, Popopien et tous les autres aussi, bonjour. Je ne peux pas laisser passer un 2 décembre sans rappeler à tous ceux qui l'ignorent que c'est le jour anniversaire du sacre de Napoléon à Notre-Dame de Paris. Une date émouvante donc pour tous ceux qui s'intéressent à la folle épopée napoléonienne, plus exaltante, bien qu'il est vrai un poil plus sanglante, que les interminables négociations sur la nécessaire réévaluation des montants compensatoires. Oui Charline, c'est vrai, ça faisait longtemps que j'avais pas évoqué cette douloureuse question. Maintenant, certains d'entre vous se disent peut-être, mais qu'est-ce qui vient encore nous péter les burnes avec son Napoléon alors qu'il est censé nous parler de pop culture? Et je répondrai que dans pop culture, il y a culture et que l'histoire, comme disait Napo, est un mensonge que personne ne conteste, ce qui pourrait justement faire une excellente définition de la pop culture. Mais pour vous montrer que je reste ouvert, je rappellerai aussi que c'est ce 2 décembre 1983 que fut révélé le clip légendaire de Michael Jackson, où pour la plus grande joie des petits et des grands, il se transformait en zombie. Bref, ce 2 décembre, c'est la journée des merveilles, autant que des vermeilles, puisque nos deux héros suscités ont un certain âge, voire plus d'âge du tout. Et ça tombe bien, puisque notre invitée Camille Jourdi en connaît autant qu'elle en dessine des vermeilles. D'ailleurs, son nouvel album a justement pour titre Les Vermeilles, et c'en est une de merveilles. Incroyable, non? Oui, aujourd'hui, c'est Jourdi dans Pop Pop Pop.
France Inter. Pop Pop Pop. Antoine Decaune.
Bonjour Camille Jourdi.
Bonjour.
Et bienvenue dans notre studio. Vous venez de recevoir le prix Pépite, catégorie bande dessinée au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse pour votre roman graphique Les Vermeilles, édité chez Actes Sud. Et on va donc commencer par un bravo!
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 BD ou roman graphique?
Bon, les deux, j'aime bien les deux.
Oui,
comme,
on s'en fout.
Ouais,
bon, oui. Ça marche. Alors, à mes côtés, celle qui cherche toujours un éditeur pour sa collection entière de Monsieur Patate, Charline Roux. Bonjour Charline.
Alors techniquement, c'est plutôt des betteraves.
Des betteraves.
Toujours un truc de région.
Donc,
bonjour Antoine.
Madame Betterave. Au menu également de Pop Pop Pop, un nouveau numéro des On ne dit pas de Loïc Prigent.
On ne dit pas il braille, on dit il magnifie les sonorités boisées.
On ne dit pas quoi, on verra ça tout à l'heure. Mais avant ça, Camille Jourdi, ici, il existe une question. Une question. Encore plus trash qu'une réplique entendue par Loïc Prigent, élu par Catherine Deneuve.
Elle a plus de Louboutin que de neurones.
Et une question que je pose donc en Louboutin. Et cette question, c'est... Pour vous, Camille Jourdi, c'est quoi la pop culture? Alors, pour être totalement honnête, j'ai eu des réponses jourdinatives, camillesques, bédétisantes et même vermeilleuses. Et parmi mes préférées, il y a celle du papa de Mortel Adèle. Antoine Dole, Dole comme le nom de votre ville natale. Ben oui, tout se recoupe ici.
La culture pop, je dirais que c'est une culture très verticale, très centrale, qui touche des endroits de nous vraiment très personnels. C'est un peu l'inverse d'un premier rendez-vous amoureux, quand on essaie de convaincre l'autre qu'on est absolument incroyable, grand, impressionnant, et tout ce qui n'est pas le cas. Mmh. C'est au contraire une culture, je crois, qui n'a pas grand-chose à prouver. C'est les films qu'on regarde le dimanche sous la couette parce qu'ils nous font du bien, c'est les musiques qu'on aime écouter en boucle sur notre iPod, et c'est surtout les livres qu'on a vraiment lus et pas ceux qu'on fait croire qu'on a lus dans les dîners d'adultes.
Bien, ça c'était Antoine Dole. Et vous, Camille Jourdi, c'est quoi pour vous cette fameuse pop culture?
C'est assez vrai ce qu'il dit. C'est quelque chose que tout le monde connaît, je dirais, et quelque chose qu'on aime, mais sans se demander si c'est vraiment bien. Enfin, voilà, sans avoir besoin, je sais pas, d'un bagage culturel immense pour l'apprécier. Je rattache ça pas mal à l'enfance aussi.
Ouais. Donc quelque chose d'assez contemporain, d'assez immédiat.
Oui.
Hein, quelque chose qui est en train de se faire maintenant.
Ouais.
Le film du dimanche soir, ça vous plaît bien, ça, hein?
Ouais, bah, je le fais plus trop, mais oui, dans l'idée.
Ouais. Ok. Charline, on valide?
Parfait.
Parfait, parfait.
Ouais, parfait, parfait.
Ah, bah, dites donc, je vous sens très, très enthousiaste aujourd'hui. Ouais. La pop, la culture et la pop culture, on va en parler dans la suite de Pop 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 juste après. Fire, c'est un morceau signé des Black Pumas. Bah, tiens, il n'y a pas de son, là.
Love! understand.
C'est un morceau signé des Black Pumas. Ah bah le blanc, le son.
Ils sont fatigués ces Pumas.
J'aime bien qu'il allait finir par arriver. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon à une lettre près. Notre invité aurait pu être lui.
C'est dur, dur être bébé.
Eh oui, Jordi, J-O-R-D-Y. Mais ce n'est pas lui. Alors de qui s'agit-il et quelle est cette lettre manquante? Réponse avec... votre pop portrait, Camille. Alors oui, votre pop portrait, bien sûr, c'est votre portrait, mais...
à base de pop, 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 pop.
Et il est signé Charline...
Le U, la lettre manquante, c'est le U.
Charline Roux.
Aujourd'hui, une invitée à qui je me vois l'obligation de décerner le prix de meilleur titre de première œuvre ever, puisque celui du livre qu'elle a écrit et illustré alors qu'elle était encore étudiante était, je cite, « Une araignée des Tagliatelles et au lit, tu parles d'une vie ». Programme que certains jugeront hâtivement comme un peu triste et dont d'autres ajouteront « ma vie ». En mieux, l'histoire de quatre personnages qui fuient le quotidien. Les personnages de notre invité, quand ils ne fuient pas, suivent, ce qui peut être assez semblable finalement, comme Vincent Machaud, le héros très réservé de Rosalie Bloom, des héros un peu solitaires, à l'instar aussi de l'héroïne de son roman graphique Juliette, mais en mouvement, un peu comme Jo, la jeune héroïne qui l'amène ici aujourd'hui. Une petite fille bien décidée à fuir sa famille recomposée et hop, le motif de la fuite est bouclé et celui du prix aussi puisqu'elle vient tout juste d'être récompensée. Alors maintenant, on espère bien, au moins pendant une heure, la faire rester, cette invitée. Ça nous arrangerait.
Camille Jordi, il n'y a que le U qui fait la différence entre vous et Jordi, l'interprète de Dur, dur d'être un bébé.
Oui, on me l'a beaucoup j'ai eu droit au collège, Dur, dur d'être un bébé, effectivement.
Vous en avez souffert?
Non, j'avais bien pire dans mon adolescence au collège.
C'est vrai? Quoi par exemple?
c'était un peu une catastrophe toute l'adolescence.
Ah c'est vrai?
Ouais.
Ah, je m'explique mieux votre livre aujourd'hui, Les Vermeils, ce récit d'initiation. Bon, on va en parler dans quelques instants. Camille, vous me suivez si je vous propose d'aller sur la planète pop?
Oui.
Ouais, normalement, il faut dire oui. Alors, ben, allons-y, parce que c'est l'heure de votre pop list. Nous vous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique, une série culte. Camille Jourdi, pour le livre, vous avez choisi « Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur », publié par Harper Lee, enfin écrit par Harper Lee en 1960. Charline, la saison de la chasse est ouverte. J'en connais qui n'hésitent pas à tirer sur les oiseaux, mais pourquoi faut-il éviter les oiseaux moqueurs?
Parce que sinon, Émeric Caron vient se venger. En ce qui concerne le livre d'Harper Lee, on y croise Atticus Finch, avocat commis d'office pour défendre un homme noir accusé d'avoir violé une femme blanche et celui-ci risque la peine de mort.
Bien. Camille, auriez-vous la gentillesse de nous en lire un extrait, s'il vous plaît?
Oui. Alors,
L'idée d'un fiancé permanent ne compensait que médiocrement son absence. Je n'y avais jamais songé, mais à mes yeux, l'été c'était Dill, en train de fumer de la ficelle au bord de la mare, les yeux brillants de Dill quand il élaborait des plans compliqués pour faire sortir Bouradley. L'été, c'était ses baisers furtifs, dès que Jem avait le dos tourné, les impatiences qui nous prenaient parfois. Avec lui, la vie était banale. Sans lui, elle était insupportable.
Extrait de « Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur » de Harper Lee, lu par notre invitée Camille Jourdi. Alors Camille Jourdi, pourquoi ne faut-il pas tirer sur l'oiseau moqueur
Je ne sais plus, j'avoue. Là, comme ça, je ne sais plus le titre. J'ai lu il y a quelques années déjà.
Pourquoi ce livre vous a-t-il tellement plu?
C'est un livre sur l'enfance. Alors c'est vrai que ça parle d'un sujet vraiment grave, donc c'est injustice et ce procès, mais il n'y a pas que ça, surtout toute la première partie. Il est vraiment question des deux enfants, en fait, les deux enfants de l'avocat en question et de Dill. Ça parle de l'enfance d'une manière que j'ai adorée. Enfin, je trouve ça... J'ai eu l'impression de me retrouver, moi, dans tout ce qui pouvait avoir de magique et d'excitant dans l'enfance. Justement, par exemple, Bouradley, c'est un personnage dont ils ont très peur et qui vit dans une maison, jamais, ils veulent absolument essayer de le voir et de le faire sortir. Et il y a plein de petites trouvailles comme ça, un peu fascinantes. C'était un grand plaisir de lecture.
Et sans être indiscret, pourquoi est-ce que tout ce qui touche à l'enfance vous touche tellement justement?
Je sais pas. Alors j'ai pris ça aussi peut-être parce que je fallait choisir quelque chose. Mais je me suis dit ça collait bien avec ma BD. Ouais. J'ai aimé l'enfance. Puis je pense que ça, si je fais le métier que je fais aujourd'hui, c'est né à ce moment-là. Envie, ce plaisir de
dessin. Et puis le lien n'est pas rompu, loin de là.
Oui, oui.
Donc vous restez d'une certaine manière dans l'enfance.
Oui, oui.
Oui, on peut le dire. Très bien. Alors Camille Jourdi, pour le film, vous avez choisi L'Effronté. C'est un film réalisé par Claude Miller en 85. Charline, j'imagine que c'est un film qui a dû toucher l'adolescente mal dans sa peau que vous avez dû être immanquablement, n'est-ce pas?
Non, c'est faux. Pourquoi vous dites ça? De toute façon, vous comprenez rien à ma souffrance, rien.
Merci public, c'est tout. Charlotte a 13 ans, elle est saoulée, ok, mais aussi fascinée par Clara Bowman, pianiste surdouée de son âge.
Mais c'est nul, ça m'ira jamais. Ah, tu verrais les affaires de Clara, hein, t'y croirais pas.
Eh ben, tu sais ce que je crois, moi? C'est que ta Clara, elle t'a rien promis du tout. Et tout ça, c'est des rêveries dans ta petite tête de folle.
Attends, tu verras, attends.
Mais pourquoi tu discutes avec moi? Je sais tout ce qu'il y a dans ta tête.
Elle voit tout dans ta tête.
Camille Jourdi, vous étiez une adolescente mal dans sa peau qui rêvait de rencontrer un jeune pianiste virtuose qui l'introduit dans son univers de rêve? Oui.
Oui, il y avait un peu de ça. Ouais, je me suis beaucoup identifiée au personnage de Charlotte Gainsbourg dans le film. En plus, j'avais un peu le même look, la même façon d'être. Ça colle bien avec mes BD. Enfin, ce personnage qui s'ennuie et qui rêve d'autre chose. Et puis les dialogues sont super dans ce film, je trouve.
Ok, on avance doucement parce qu'on est passé de l'enfance, nous voici à l'adolescence. Que nous réserve la série que vous avez choisie, Camille? Votre choix s'est porté sur, attention, deux mots qui pèsent dans la pop culture. Et ces deux mots, ce sont Twin et Pix. Car oui, vous avez choisi la série de Mark Frost et David Lynch. Charline, on a déjà évoqué Twin Lynch de...
Twin Peaks
dans Pop, elle de multiple reprises. Apprenez donc à Camille quelque chose qu'elle ignore peut-être.
Alors je vais tenter. Le sinistre et criminel Hank Jennings, joué par Chris Mulkey, est enregistré comme prisonnier sous le matricule 24601, le même matricule que Jean Valjean.
Qui a tué Laura Palmer?
Ma bûche a fait quelque chose ce soir-là.
Il y a de fortes chances pour que l'auteur de ces crimes se trouve dans cette ville. C'est peut-être même quelqu'un que vous connaissez. Je vais avoir besoin de réponses précises. À mon avis, les gâteaux viennent ici pour mourir.
Alors on a commencé par l'enfance avec le livre, on est passé par l'adolescence avec le film. Nous voici dans un âge adulte un peu plus onirique avec Twin Peaks. Ça vous a fait peur, Twin Peaks, ou pas?
Oui, très peur. Bob, j'ai regardé ça, j'habitais toute seule et j'ai eu très peur de Bob.
Vous avez eu peur de Bob?
Moi, je suis une trouillarde de toute façon, moi.
C'est un univers très inquiétant.
Oui, c'est vrai. Non, ça fait vraiment peur.
Mais ça vous plaisait parce que ça vous faisait peur?
C'est l'ambiance, c'est tout. Je pense aussi que c'est une des premières séries que j'ai vues qui m'a vraiment marquée. Avant, je regardais des séries, que c'était peut-être moins... c'était une période où il y en avait moins de qualité.
Alerte à Malibu, des choses comme ça,
Ouais, je ne vais pas trop regarder, mais... les séries d'adolescence, et celle-là, elle m'a vraiment marquée parce qu'elle est très bien, et les personnages, je les aimais vraiment beaucoup.
Très bien.
Et l'ambiance.
Ben oui,
évidemment. Et la musique.
Ben justement, la musique. On va finir avec la musique de votre pop list, Camille. Et c'est un morceau qui est... I put a spell on you. Because you're mine. Stop the things you do. What's up? Screaming Jay Hawkins, I put a spell on you. Il vous a fait peur, Screaming Jay Hawkins, avec sa grosse voix de ténor pervers polymorphe, non?
Non, non.
Jamais.
Je ne l'ai pas vu en vrai.
Alors,
en
alors il était très inquiétant parce qu'il se produisait sur scène avec un cercueil.
Ah, mais j'ai pas vu.
Comment il commençait le concert? Dans un cercueil, et puis il chantait avec une tête de squelette qui ne le quittait jamais.
Oui.
Avec sa grosse voix de. Bon, pardon. Alors, pourquoi cette chanson-là?
Je sais pas, je l'aime bien, je l'ai découverte, c'est la BO du film Strangers in Paradise et j'ai beaucoup aimé le film. Alors je l'associe aussi à ce film-là.
Ouais.
Voilà, je pense que je l'ai découverte à un moment où ça m'a marqué et je prends toujours autant de plaisir à l'écouter.
Vous dessinez en musique ?
Alors des fois, ça dépend. Je peux pas écrire en musique, là j'ai du mal à me concentrer. Ou alors pour me mettre dans une ambiance éventuellement. Mais par contre, une fois qu'il s'agit vraiment du dessin et de la couleur en musique ou avec la radio.
Il y avait une bande-son pour Les Vermeils ?
Non, pas particulièrement.
Non.
Pas particulièrement, non.
Camille m'a confié avant l'émission qu'elle écoutait Pop en dessinant.
Ah oui.
Ce qui expliquerait peut-être d'ailleurs cet univers coloré et pop, largement.
Mais peut-être.
Très très pop. Des Vermeils dont on va parler dans quelques instants. Bon, alors je résume. Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, les frontés, Twin Peaks et Screaming Jay Hawkins. Je mets tout ça dans mon mixeur de pop culture et ça nous donne ça. I
put a spell on you. Mais c'est nul, ça m'ira jamais.
L'été, c'était ses baisers furtifs, dès que Jem avait le dos tourné, les impatiences qui nous prenaient parfois.
Stop ! Tout ça, c'est des rêveries dans ta petite tête de folle.
Bah attends, tu verras, attends !
À mon avis, les gâteaux viennent ici pour mourir.
Vois tout dans ta
Camille Jourdi, vous pensiez passer un jour dans un mixeur de pop culture ?
Mais non, je suis très contente.
Vous êtes contente ?
D'avoir mon pop portrait, oui.
Pop portrait, pop mixeur, bon. Et c'est pas fini. Bon, remettez-vous de vos émotions le temps que vous retrouviez vos esprits. On écoute un morceau qui casse les internets des millennials. Je ne comprends rien à cette phrase. Et ce morceau que nous allons écouter dans Pop Pop Pop, eh bien il s'appelle Pop 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 et il est signé du rappeur Gambi.
Rien dire, les petits veulent du respect. Tu fais chaud, tu restes pas à gâte. La boca, j'ai ralasse la boca. J'ai cramé l'enveloppe, maintenant j'ai plus Wahda. Alicante, Acapulco. Je suis défoncé, je mets les couettes de Puka. Puka, Puka, danse le Mapuka. Il me faut des bonbons, je dois passer chez le Pacat. Alors, Apu, comment va l'ami? Mets-moi un mélange, garde le reste et l'ami. Il sert les craquettes de la chapelle. Je réponds pas quand les meufs m'appellent. Y'avait pas un, j'avais la dalle. Tu dis que tu vends, mais tu la vends juste pour fumer. Et qu'un client à l'Enacha va te défoncer. À nous tu mens, mais moi je t'ai remonté. J'suis dans le bloc, bloc dit eux cachés dans le froid, froid. On bosse au black, black, on fait des sous dans le bac. Y'a de la drogue à Acapulco, c'est de la bonne jaune fraîche comme du pulco. Vu la qualité, j'en mets un poquito. On arrange personne, même si t'es le poteau. Boum boum dans la couette, j'fais du tam tam, j'tire ses couettes. J'm'invite à ta fête, vas-y j'débarque, j'arrive tout de suite. J'ai pas de go, et ma go a pas de gars. Si t'es plein, on pas gaffe, et c'est pas grave. Si t'as pas nous, on donne, t'as besoin de téléphone. Depuis que j'ai 60K, les gratteurs veulent des pubs. Ils ouvrent leur cul, me demandent sans scrupule. Mais moi j'ai rien vu, j'ai rien vu. Mais tu la vends juste pour fumer. Dès qu'un client à l'Enacha va te défoncer. À nous tu mens, mais moi je t'ai remonté. J'suis dans le bloc, bloc dit eux cachés dans le froid. On bosse au black, black, on fait des sous dans le bac. Pop, pop, pop,
Pop, pop, pop. Antoine de Caunes.
Et Charline Roux. Camille Combal, Lacour et Serre sont les premiers résultats qui tombent quand on tape Camille sur Google. Mais notre invité aujourd'hui est... Camille Jourdi. Voilà, ni une ex-Miss France, ni un nageur, ni un présentateur donc, mais une illustratrice, une dessinatrice. Camille Jourdi, vous venez nous présenter Les Vermeils, votre nouvel ouvrage graphique édité chez Actes Sud. Et je le disais, après avoir été primé il y a quelques jours au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse à Montreuil, votre ouvrage est sélectionné pour le Festival International de la BD d'Angoulême dans la sélection Jeunesse.
Oui.
Angoulême, pour une illustratrice, une dessinatrice, c'est un peu vos Oscars à vous, non?
Oui, c'est vrai. Mmh. Oui, oui, c'est le gros festival de BD. Ouais.
Et alors? On frémit, on tremble?
Pas encore, je sors juste de Montreuil, j'ai pas pour réaliser, mais ouais, quand dans deux mois, oui.
Et puis vous connaissez Angoulême en plus?
Oui, je connais Angoulême.
Vous avez déjà été...
Oui.
And the Oscar goes maybe to Camille Jourdi, mais avant de recevoir la statuette, parlons des Vermeils. Alors après deux romans graphiques très remarqués, Rosalie Bloom et Juliette, voici donc que vous vous aventurez vers des lecteurs plus jeunes avec ce récit d'apprentissage. Pourquoi vous intéressez-vous aux enfants quand le titre Les Vermeils pourrait laisser croire que vous vous adressez plutôt à leurs grands-parents?
On m'a dit des fois. C'est en étant maman, en fait, quand ma fille avait 3-4 ans, en fait, j'ai eu l'impression de reparcourir l'enfance et d'être avec elle, enfin, en lui faisant découvrir les films que j'avais aimés, les dessins animés, les livres, etc. Et j'ai eu envie de faire un livre pour elle, pour moi. Voilà, je la dessinais de temps en temps avec ses jouets, ses petits poneys. Et puis, au départ, c'était censé être un petit livre, et puis ça a pris de l'ampleur. Et j'ai eu envie de faire un livre voilà, qui me plairait à moi quand j'étais enfant et
à qui
elle.
Plairait à votre fille aussi. Quel voilà. âge a votre fille sans indiscrétion?
Maintenant, elle a presque 10 ans.
Alors, elle l'a lu?
Oui, oui, elle l'a lu et puis elle l'a lu quand il était fini et avant, je lui soumets beaucoup.
Vous avez tenu compte de ses observations?
Ben oui, si je vois qu'il y a des choses qu'elle ne comprend pas, je change, oui.
Mais justement, c'est l'éternelle question quand on écrit pour les enfants, de quelle voix est-ce qu'on parle? C'est-à-dire celle de l'adulte ou celle de l'enfant qui s'efforce de se mettre dans leurs petits chaussons?
Je sais pas, l'enfant que j'étais moi et qui est toujours là d'une certaine manière. Ouais. Après, j'essaye de faire un truc qui me plaît, mais juste que ce soit compréhensible par les enfants. Mmh. S'il y a des choses, je vois que c'est un peu compliqué, que ça peut heurter leur lecture, je le fais pas. Après, ça me dérange pas qu'ils comprennent pas complètement les blagues comme nous, on les comprend. Mais comme nous, quand on était enfant, on pouvait lire Tintin, Astérix, il y avait des fois du second degré. Peut-être qu'on comprenait pas, mais ça gênait pas la lecture en tout cas.
Les Vermeils, c'est l'histoire de Joe, mais Joe est agacé car sa belle-mère est une sorcière et une de ses demi-sœurs fait sa belle sous prétexte qu'elle a des petits seins qui poussent, et je la comprends, j'ai fait pareil à son âge. Alors quand l'occasion lui est donnée de fuguer, eh bien elle fugue, direction un pays où elle va découvrir, grâce à deux lutins montant des mini-chevaux, un petit peuple étrange et disparate avec des animaux anthropomorphes ou demi-mutants qui se préparent à donner l'assaut contre le château du tyran, un méchant matou, griffu et pervers. Dans cette aventure, elle croisera aussi les fascinantes vermeilles, poney magiques de toutes les couleurs, adorant les bonbons. Donc ma question est très simple, vous fumez quoi Camille?
Bah, rien, moi je suis très, très, j'y ai pas besoin du tout.
Ah bon?
Non.
Écoute, vient... pop, c'est ça qui fait voyager en quelque sorte. Hein.
Ça vient naturellement comme ça?
Oui, bah, c'est avec du boulot, enfin j'y passe du temps, vraiment, mais sinon oui.
Non mais je veux dire, ces associations étranges, cet imaginaire débridé, c'est...
Ouais, non, j'aime bien, il n'y a pas besoin.
C'est entièrement naturel.
C'est entièrement naturel, voilà.
Cette petite fille à la fois très mignonne, mais un peu retorse, intrépide, la source d'inspiration principale vient de chez vous, où il y a eu d'autres enfants, que ce soit pour le langage, pour le comportement?
Alors ça vient un peu de ma fille, même s'il ne lui ressemble pas vraiment. Mais j'aime bien quand les personnages existent, alors il faut que je travaille beaucoup les dialogues, en fait. Parce que si c'est un truc trop fade et trop passe-partout, ils n'existent pas, les personnages. Et je trouve qu'il faut qu'en quelques cases, ils soient vrais.
Les Vermeils, c'est 160 pages, un an et demi de travail et deux co-auteurs, vos filles, hein, qui ont 9 ans et demi, dont vous avez parlé, et puis l'autre qui a 3 ans et demi. Vous avez prévu de payer des droits d'auteur en tagada?
Moi, je pense que ça leur va si on fait ça. Oui.
Vous allez vous en sortir comme ça. Hein, croyez que vous allez vous en sortir comme ça, avec des tagadas.
Mais pourquoi pas, oui.
Pourquoi pas, elle va le faire.
C'est donc un récit d'apprentissage dans la lignée des Alice au Pays des Merveilles, comme de Max et les Maxi-Monstres. Quel a été votre récit d'apprentissage à vous?
Ah, il y en a beaucoup. Mm. Là, je pense que j'avais en tête Alice au Pays des Merveilles, ouais, auquel ça fait vraiment référence. Après, beaucoup de Disney, Blanche-Neige, Peter Pan, Pinocchio, et puis les films de Miyazaki aussi.
Ouais.
Et puis les films de l'enfance, je pense à L'Histoire sans fin, Princesse Bride. Enfin, il y en a plein comme ça, des contes. Je pense que tous ceux-là, ils étaient vraiment avec moi quand j'ai fait ce bouquin, sans forcément en avoir tout le temps conscience. Alors des fois, je mets des références, elles me font plaisir, j'ai envie qu'elles soient là. Puis d'autres fois, bon, je sais qu'ils m'influencent, mais j'y fais pas toujours attention.
Et je parlais de Max pour le motif de la fuite, en l'occurrence.
Ah oui,
de
pour
la
Max, fuite, oui,
il y a quelque chose de aussi, cet ordre-là. Ouais.
Oui, oui.
C'est un livre très étrange, hein, que c'est Vermeil, avec ses dessins qui donnent l'impression que l'on est dans un livre pour enfants, mais avec une histoire étrange, surréelle et merveilleuse, qui ravira aussi les parents. Est-ce que c'était de joindre ces deux niveaux de lecture qui vous intéressaient ?
Oui, vraiment. Et j'avais très peur aussi que ce soit casse-gueule et de ne pas y arriver, mais des fois ça m'embête que ce soit tellement cloisonné comme ça, les livres. J'ai l'impression que justement avant, peut-être c'était moins comme ça. Mmh. Et quand j'ai commencé à lire des BD à ma fille, justement, j'avais du mal à trouver une BD qui nous plaise aux deux et... J'avais envie de faire ça, alors j'avais l'impression des fois qu'on me faisait comprendre que c'était peut-être, j'allais pas forcément y arriver, mais voilà, j'ai envie de me faire plaisir, et puis tout en parlant aux enfants. Ouais.
Et un bon livre pour enfants, c'est un livre qui normalement doit plaire aux
parents. Oui, je pense qu'il faut pas les prendre pour des idiots en fait, non. Les enfants.
Regardez, moi j'ai un fils de 38 ans, je continue à lui lire des contes tous les soirs pour m'endormir. Oui, il adore ça, il est ravi.
Vous parlez de la mise en couleur comme de la partie récréative de votre travail. Je crois que vous ne déléguez d'ailleurs pas du tout. Comment est-ce que vous qualifiez du coup la partie dessin, si la mise en couleur est la partie récréative?
Ça me demande plus de concentration, vraiment. Après, ça dépend ce qu'on appelle la partie dessin. Disons que le dessin, pour moi, c'est une écriture, vraiment. C'est comme ça que je raconte les choses. Ouais. En bande dessinée, forcément, c'est comment je vais construire la case et la page pour que ça fasse passer les sentiments et ce que je veux faire passer, quoi. Donc là, j'ai besoin d'essayer, de recommencer. Alors que la couleur, je le fais beaucoup plus au feeling.
C'est un livre qui déborde effectivement de couleurs, hein, au point qu'on se demande, comme avec l'œuf et la poule, lequel vient en premier, la couleur ou le dessin ?
Le dessin.
Vous voyez, j'ai une question.
Oui. Disons que j'ai en tête une image, à peu près l'ambiance que j'ai envie de mettre dans ma BD. Et après, j'aime bien me laisser surprendre par ce qui vient. Je travaille vraiment tout en couleur directe, donc c'est pas sur l'ordinateur. Donc je maîtrise sans maîtriser, c'est-à-dire je pose ma couleur et puis elle est là et puis je fais avec. Et j'aime bien laisser comme ça survenir l'image. Et ça ne correspondra jamais exactement à ce que ce que j'avais en tête avant. Mais ça me plaît, cette façon de faire.
Qu'est-ce que vous avez préféré inventer, les créatures humaines ou animales? Et puis, est-ce qu'elles sont si différentes, en fait, à composer?
Non, finalement, c'est un peu pareil pour moi. Je veux qu'ils existent, qu'ils aient leur caractère. Donc, faire un renard, un gros renard ou Pollux dans Juliette, c'est pareil. Finalement, ils sont assez proches, ces deux personnages. Donc, la seule chose, c'est que c'est un peu plus facile à dessiner, le gros renard, que le... Voilà, c'est tout. Je suis allée plus vite dans les dessins pour ça.
Vous le disiez il y a quelques instants, Camille, il y a des références indirectes à Alice au Pays des Merveilles, évidemment, mais pas seulement. Est-ce qu'on peut aussi voir des clins d'œil à Boucle d'Or, à Cendrillon, à Blanche-Neige, à Peau d'Âne, à L'Histoire sans fin, à Peter Pan, au jouet, mon petit poney? Ce sont toutes ces références que vous avez mis dans votre mixeur de pop culture. Alors, vous n'êtes pas obligé, Ghislain Fontana, tu n'es pas obligé d'envoyer le son du mixeur à chaque fois que je dis le mot mixeur. Non, bon, ok, bon, je ne le dis plus. Ce sont toutes ces références que vous avez mis dans votre de pop culture à vous?
Oui, après il y en a encore d'autres. C'est ce que je disais un peu tout à l'heure, de temps en temps j'aime bien faire... Il y en a, je pense qu'on ne voit pas. Alors, vous avez parlé de Boucle d'Or, effectivement, quand elle entre dans une des pièces, il y a trois chaises, trois bols. Ça, la plupart des gens ne le remarquent pas.
Mais, j'étais traumatisé par Boucle d'Or.
Ah, bon. Moi, ça me plaît de mettre ces petits clins d'œil de temps en temps,
Et alors, pourquoi est-ce que dans les livres pour enfants, la belle-mère prend toujours très cher?
Après, ça se finit bien quand même. Mais, alors, c'est vrai. Alors, je voulais qu'elle parte, qu'elle ait une colère, cette petite fille, parce que c'est un peu un récit initiatique. Elle part énervée, en colère et un peu légère comme ça. Et puis, elle va grandir au fur et à mesure de ce récit.
Et c'est toujours un nœud de l'intrigue. Hein,
en fait, comme c'est un truc qui marche sur les contes, ça me plaisait, cette idée de belle-mère qui a deux belles filles, justement. Enfin, voilà.
J'ai voté Anastasie.
Oui, bah, j'y ai pensé à les appeler comme ça. Oui. Et puis voilà, je sors un peu apaisée de tout ça. Bon, on se concentre, c'est pas le sujet principal non plus.
Le journal Télérama pose la question suivante. On se demande à qui s'adresse ce gros volume. Si c'est aux adultes qui rêvent de retourner en enfance, ou aux grands-enfants qui craignent de grandir. Sans doute un peu des deux, et c'est tant mieux. Fin de citation, oui, c'est ça le ton Télérama. Alors sans doute un peu des deux, et c'est tant mieux Camille Jourdi.
Oui, bah, moi c'est ce que je voulais, j'ai l'impression que ça fonctionne, alors ça je suis très contente.
Ça fonctionne très très bien.
Et est-ce qu'un livre pour enfants se doit d'avoir une morale stipulée ou non, comme c'était la tradition?
Ouais, non, moi je suis pas à l'aise avec ça. Ouais. Moi j'ai pas envie de faire passer forcément des messages, c'est plus des émotions, des sentiments, ouais, non, je sais pas, ouais.
Il y a toujours une morale.
Oui, après on peut...
Qu'on le décrète.
C'est juste qu'il
ne
faut pas qu'elle soit trop expliquée et appuyée, je crois, mais on peut toujours en tirer des choses... C'est fait pour grandir aussi, pour faire du bien, quoi.
Mais c'est un récit d'initiation, en fait, ce livre.
Oui, oui.
Donc, la morale, c'est qu'il faut réussir à grandir.
Oui, on peut se dire ça. Oui, voilà.
Vous avez réussi vous-même?
Bah oui, quand même, oui.
Vous êtes sûr?
Bah oui.
On peut vous retourner la question?
Quoi?
On peut vous retourner la question?
Mais oui, bien sûr que j'ai réussi à grandir. Libération qualifie votre dessin de choupinette ou plein. Choupinette ou plein, on le rajoute sur votre page Wikipédia ou pas?
Oui, pourquoi pas. Un autre article, c'était un tableau de Jérôme Bosch version Haribo, et je trouvais ça pas mal aussi.
Ah, pas mal aussi.
Ouais.
On met tout ça.
Vous dessinez depuis votre plus tendre enfance. À l'époque, vous dessiniez quoi et pour raconter quoi? Est-ce que vous en souvenez? Est-ce que vous avez gardé, les premières œuvres?
Je sais plus. Alors, quand j'avais 12 ans, je me rappelle, j'ai fait une bande dessinée, ça s'appelait Le repère des trois squelettes. Mais c'était un peu ridicule. Et mon frère m'a dit que les vermeils, ça lui avait fait penser d'ailleurs. Mais,
c'est vrai? Il a retrouvé des traces.
Ouais, il doit y avoir. Je pense qu'il y avait des choses déjà un peu. Hein, mais je dessinais beaucoup et je racontais beaucoup d'histoires. Oui.
Quand on fait de la BD, on lit de la BD généralement. Quelle est la dernière BD qui vous a vraiment scotché, Camille Jourdi?
Oh, il y en a plein. Qu'est-ce que j'ai lu? La dernière que j'ai lue, c'est celle de Laurent Maffre chez Actes Sud, qui s'appelle Demain, demain. Et c'est super bien.
Ouais.
Ouais. Bon, après, j'adore Posy Simons, j'adore. Il y a beaucoup de. Chris Ware, Emmanuel Guibert, beaucoup d'auteurs que j'aime.
Votre recommandation, c'est donc?
Eh bien, on va dire Demain, demain.
Ouais. Demain, demain. Ouais. Voilà. Très bien.
Actes Sud.
Chez Actes Sud. Parfait. Les Vermeils, c'est une merveille. Je ne dis pas ça que pour le jeu de mots. C'est édité chez Actes Sud. Camille Jourdi. Vous savez faire plein de choses, on vient de le comprendre, mais est-ce que vous savez faire ça?
Je vais essayer.
Mais oui, évidemment qu'elle sait le faire. Bon, vous êtes entraîné, vous?
Oui.
Ah, ben oui, bon, c'est pour lancer les pop news.
Et arrêtez tout immédiatement, c'est un événement colossal que je m'en vais vous annoncer. Pearl Jam en concert à Paris, ça n'était pas arrivé depuis 14 ans. Eddie Vedder & Co monteront sur scène à Paris le 19 juillet pour le Lollapalooza. Ce sera Hippodrome de Longchamp et les passes, il n'y en aura pas pour tout le monde, seront mis en vente le 4 décembre à 10h.
Autre événement dans un registre un peu différent, le retour de Joe Pesci à la chanson. Pas une première, hein, puisqu'il avait tenté une première carrière dans cette discipline, mais c'est son premier album en 21 ans et il s'appelle tout simplement Still Singing. Baby, Joe Pesci, mais oui, le Joe Pesci. C'est un album à retrouver sur les plateformes légales dédiées et Joe Pesci est à retrouver, lui, sur Netflix dans The Irishman de Scorsese.
Et c'est ce jeudi qui revient pour une troisième et ultime saison, l'une des meilleures séries françaises de comédie, Irresponsable, c'est son nom, c'est signé Camille et Frédéric Rosset et merveilleusement interprété par Sébastien Chassagne dans le rôle titre, alors à qui son jeune fils a quelque chose à annoncer.
Je voudrais voyager. En fait, je veux partir au Chili. Je veux pas aller à la fac, j'ai vraiment besoin de réfléchir à ce que je veux faire dans la vie.
T'as 18 ans à peine, moi je te connais que depuis 3 ans, bordel.
Moi je pars vivre ma vie, puis toi, tu vis la tienne, mon gars.
Pourquoi j'ai accepté ce boulot?
Allez, client suivant, on se dépêche.
Dites, c'est bon ça?
Ah ouais, j'en sais rien du tout. Hein.
Irresponsable, c'est ce jeudi sur OCS Max, et pour les retardataires, les deux premières saisons sont disponibles à la demande.
France Inter. Bon papa. Antoine Decaune.
Ah ouais.
Ah, pas l'accent italien.
C'est moi, bien sûr, c'est moi.
Italien,
Mais c'est moi.
Pardon, Joe Pesci.
Oui. Mais oui, bravo. Mais bravo, Charline, écoutez, vraiment, non, vraiment de plus en plus affûtée. Hein. Alors, j'ajoute une pop news, car nous avons appris il y a quelques jours que le groupe virtuel le plus connu de la planète pop, Gorillaz, était de retour avec un documentaire qui sera diffusé dans les cinémas du monde entier lundi prochain, et lundi uniquement, l'occasion de se faucher, de se chauffer un peu pour patienter en écoutant un classique, Dare. C'est évidemment signé Gorillaz et c'est extrait de l'album des Mondays.
Avec Sean Ryder des Happy Mondays.
Merci Charline pour cette précision qui s'imposait. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de Pop Culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes toujours en compagnie de Camille Jourdi et viennent de nous rejoindre les oreilles les plus connues des coulisses des défilés de mode. Bonjour Loïc Prigent.
Hey
Comment ça va?
Oh là là, mais vous avez l'air très très très...
Je relève mon chapeau.
Oui, bravo, bravo. Le...
Mais oui, bonjour. Bon,
qu'est-ce qui se passe? De quoi nous parlez-vous aujourd'hui, s'il vous plaît?
Je suis toute crottée, je suis désolé. Je descends de mon canasson. Eh bien écoutez, je viens vous parler de journalisme. Alors j'ai découvert mieux que le journalisme de mode, mieux que le journalisme hippique. Je suis assez jaloux des journalistes hippiques. Je pense que c'est
pourquoi
un bon... Bah, parce que les noms des chevaux sont improbables, non?
Ouais.
Du coup, c'est drôle.
Ouais. D'accord. Non,
c'est vrai. Okay. Je sais pas, j'aimerais bien faire du journalisme hippique un jour. Et donc, il y a mieux que ça, il y a le journalisme horloger. Vous savez, il y a tout le temps des suppléments montres dans tous les journaux.
Je n'en connaissais pas l'existence.
Mais si, et c'est, ça s'appelle le journalisme de
montres. Non,
c'est pas
du journalisme, c'est du public reportage.
Pardon?
C'est pas du journalisme, si.
Si, bah si, bah, à partir du moment où c'est écrit dans des journaux.
Ne jugeons pas.
Vous voulez dire qu'il y a des...
Ah, je pense qu'il y a des gens qui ont la carte de presse.
Des journalistes dont le métier, c'est d'aller comparer des montres. Ouais. Sans que les annonceurs aient la moindre influence, évidemment, sur leur choix.
Mais si ça marche pour les automobiles, ça peut marcher pour les montres.
Oui, c'est vrai, pourquoi pas.
Si ça marche pour la mode. Donc, leur boulot, c'est justement ben, si, c'est vrai que c'est un peu, ils marchent un peu sur un champ de mine.
Voilà.
D'annonceurs susceptibles.
Voilà.
Parce que je sais pas pourquoi, à partir du moment où vous vous annoncez, vous devenez susceptible. C'est bizarre.
Ah, oui, c'est bizarre. C'est
un peu étrange. Donc, le journalisme de montres, ben, ça fait pas semblant. Donc, par exemple, vous dites pas, c'est une montre argent avec un cadran marron. Non. Vous écrivez. La matrice en zircone associée à une céramique haute performance confère à ce matériau son incroyable teinte brune aux reflets métalliques.
Ça donne presque envie d'en porter.
On dirait un dessin même.
22 000 balles. Ouais. Ah, okay. Alors, on n'écrit pas la montre est noire. Hein. On écrit « Sa carrure est en carbone TPT, matériau issu du domaine aérospatial. »
C'est pas vendeur, hein, si vous me permettez l'appellation.
C'est TPT. Ben, TPT. Alors, on ne dit pas que la montre est transparente, par exemple.
Non.
Ce serait beaucoup trop simple. Donc là ça, accrochez-vous, ça fait 4 lignes. Donc, cette montre embarque un calibre tourbillon dont la platine est fabriquée en titane grade 5 à travers laquelle il est disponible à travers laquelle il est possible d'apercevoir les ponts squelettés et de larges inserts en verre aventuriné bleu scintillant.
Vous avez raison, c'est vraiment du journalisme haut de gamme.
Ouais. Non, c'est grade 5 en même temps. Ouais. Hein.
Alors bon, vous savez tous que nos amis horlogers sont tous en danger en ce moment.
Ah bon?
Parce que, bah oui, parce que par exemple autour de cette table, personne n'a de montre présentement.
Ouais.
Parce que tout le monde a à la place un petit téléphone qui indique aussi
l'heure.
Voilà. Donc comment est-ce que... C'est intéressant. Donc du coup, l'industrie horlogère a la réponse. Hein, ce problème. Premier réflexe marketing, rendre la lecture de l'heure encore plus difficile sur les montres. Alors, on commence par enlever une des aiguilles.
D'accord.
Un acte qui est décrit comme ceci. Au centre du cadran, ne brille qu'une seule des deux aiguilles traditionnelles. De quoi s'affranchir de la course effrénée des minutes pour ne garder que la notion des heures.
Ouais, mais on est toujours en retard.
Là, on est sur du 35 000 balles.
Vous êtes arrivé à quelle heure? Vous, à 16?
Là,
à 17?
On est à 35 000 sur celle que vous venez de décrire, c'est ça?
Voilà, donc complètement logique, ça donne envie. Second geste, on enlève carrément les deux aiguilles. Je vous jure que c'est vrai. Hein. Donc, on redécouvre le charme aluré de cette signature visuelle excentrée qui marque les pièces trilobes.
Ça s'appelle un bracelet, c'est plus une montre.
Faisant disparaître les traditionnelles aiguilles au profit d'une épure ultra désirable.
Une épure ultra désirable.
Voilà. Donc il y a la montre sans aiguille, mais c'est encore trop simple, trop vulgaire. Alors ils viennent d'inventer la montre qui donne l'heure à l'envers.
C'est-à-dire,
ben je sais pas. Ils ont dit une véritable prouesse technique éblouissante. Deux points, un mouvement rétrograde à remontage automatique.
C'est-à-dire que les heures tombent
dans l'autre sens.
C'est à l'envers. Dans l'autre sens.
C'est à l'envers. C'est dans l'autre sens. Genre 25 exemplaires, hyper chers.
Donc on est souvent en retard.
Bah, je pense qu'on est
ou très en avance.
On commence la journée le soir, je sais pas ce qui se passe.
C'est un bon prétexte.
Il y a un côté Benjamin Button de l'horloge,
c'est
peut être pas mal.
Il marche à l'envers.
Et voilà, et ils ont alors la dernière technique, la plus géniale, je pense qu'ils ont trouvé pour que vraiment ce soit le boom à nouveau de l'industrie horlogère. C'est de rendre la montre tellement exceptionnelle, tellement inabordable, tellement exorbitante, tellement illisible, tellement tape à l'œil, ben qu'elle devient inachetable. Enfin, j'ai lu l'article quand même, la plus complexe des montres embarque 20 complications, 5 fonctions acoustiques, dont 2 brevetées, une alarme préprogrammée et le fait de sonner la date à la demande. Elle a été vendue 28 millions d'euros.
Oh. Mais c'est un micro-ondes. C'est à d'autres fonctions, c'est pas possible. C'est absurde.
Bon,
mais on la porte jamais.
Ben non, mais à 28 millions, est-ce que vous la mettez ?
Loïc Prigent, je comprends bien que les fêtes de fin d'année approchent, mais enfin, à qui s'adressent ces modèles hors de prix ?
Ben, en fait, ça s'adresse à une population assez importante qui est les messieurs que vous voyez, les messieurs en costume bleu marine, qui sont toute la journée, toute l'année en costume bleu marine. Ils ont tous le même costume bleu marine, donc forcément, quand ils sont à des grands meetings, le seul truc qui dit que...
Qui les différencie,
c'est la montre à 28 millions, la montre à 2 millions, la montre à 35 000, celle qui est, celui qui est
la plus grosse. Ah, on en revient à ça.
Ben, on en revient toujours
celui
à ça.
Qui n'a... Ah, tu n'as pas d'aiguille. Ah, voilà. Tu es très bien mieux que nous.
J'ai tout compris. Merci infiniment, Loïc. Camille, vous êtes amatrice de montres.
J'ai pas de montre. Non.
Non, non, on s'en fout un peu. Bon, ouais. Merci. Alors, nous sommes. Qu'est-ce que je raconte, moi ? Nous sommes toujours avec Camille Jourdi. On approche de la fin de l'émission. C'est l'heure pour moi d'aller chercher le dernier vinyle. Tiens, je vais appeler mon ascenseur. Ben, pourquoi il y en a 23 ? Ah ben oui, bien sûr, c'est l'ascenseur de l'avant. Viens, ouvrons celui du jour. Mariah Carey ? Non, alors désolé, mais comme on va l'entendre déjà 754 000 fois pendant le mois, je passe mon tour. Tiens, ouvrons la fenêtre de ce 2 décembre. Eh ben voilà, regardez ce que je trouve là-dedans, un petit dick. Il y en a marre de ce western, oui, c'est extrait d'album Autant dit qu'allez, c'est parti!
Plus une balle dans le revolver, dans ma gourde, y a plus de whisky. Je suis tout seul avec le désert. Qu'est-ce que je fous dans cette country? Les Cheyennes ont scalpé ma femme, les Apaches brûlé ma ferme, le shérif a violé mon cheval, et en a marre de ce western. Y'en a marre de ce western. Y'en a marre. Tout ce que je veux, c'est rentrer chez moi. Et on a marre de ce western. Je partais pour l'Arizona, tuer le bison, aimer les filles et leur chanter Oh Susanna avec un banjo en manie. Y'en a marre de ce western. Tout ce que je veux, c'est rentrer chez moi. Et on a marre de ce western. Fatigué le desperado, la même plus tabac à chiquer. Sans ses bottes, la selle sur l'épaule. Des mamies venez me chercher. J'aurais voulu être un héros, casser la gueule à John Wayne, mais les vautours auront ma peau. Et on a marre de ce western. Y'en a marre de ce western. Comme c'est pas vrai et que j'adore la country music, je n'ai qu'un mot à dire. Allez, on continue. Thank you.
Dick Rivers sur France Inter. Enfin! Il y en a marre ce western, c'est extrait de l'album Authentique QV 2005. Voilà, c'est ici que s'atteignent les Athéniens. Merci Camille Jourdi. Je rappelle que Les Vermeils, c'est édité chez Actes Sud et c'est chaudement recommandé par Pop Pop Pop. Merci de nous avoir rendu visite.
Merci.
Et merci Loïc, bien sûr. J'en profite pour rappeler que votre livre Passe-moi le champagne, j'ai un chat dans la gorge, sous-titré J'ai pas l'air trop riche, est édité chez Grasset et c'est évidemment aussi chaudement recommandé par Pop Pop Pop. Merci. Merci enfin à l'équipe de Pop Pop Pop, Ghislain Fontanus à la réalisation, à la technique Célim Guérilli, Aurélien Esvon, notre rédacteur en chef, Claire-Sophie Collet, Simon Resta, nos attachés de production, à la programmation musicale Djoubaka et Raphaël Harry, notre stagiaire. Demain, dans Pop Pop Pop, l'auteur Violaine Huismont et le réalisateur et auteur Michael Lindsay-Hogg. Mais avant demain, si vous avez aimé l'émission, retrouvez-la sur franceinter.fr. Si vous êtes un Jones 3.0, un Yeuv ou une Yeuvesse à la pointe, suivez-nous, ou plutôt comme disent les modeuses de Loïc Prigent à la fin de leur tuto make-up sur YouTube,
abonnez-vous à notre podcast.
Alors là, c'est une modeuse apparemment du Sud, mm-hmm. Et pas de première...
C'est pas grave, on la garde
quand même. Je dénonce un racisme.
Voilà, ça veut dire oui, abonnez-vous à notre podcast et suivez-nous sur les internets, comme disent les millennials, 3615 pop 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 sur Instagram et Twitter.